Les deux orphelines. Première partie. Chapitre 8. Le même jour, presque à la même heure, une berline attelée de deux superbes chevaux de poste sortait de Rambouillet, se dirigeant au grand trot du côté de Paris. Le postillon faisait claquer son fouet comme un gaillard qui flaire un bon pourboire. Derrière la voiture, un domestique, assis sur les bagages, fumait sa pipe tranquillement, bien entendu avec la permission de son maître, le marquis de Presles, qui, mollement étendu sur des coussins, paraissait s'ennuyer beaucoup. Il avait pourtant de quoi se distraire. Un temps magnifique, la route, ombragée par de grands arbres, traversait une riche vallée dont les coteaux boisés répandaient une fraîcheur délicieuse. Ici, de braves paysans coupaient les premiers foins dont les jeunes filles, les jambes et les bras nus, faisaient de grosses meules en chantant à pleine voix les joyeux refrains du pays. Plus loin, c'étaient des bergers couchés sous les arbres et laissant à leurs chiens la garde des moutons éparpillés dans les prairies. Puis, des laitières en train de traire leurs vaches et s'arrêtant pour regarder la riche voiture, ou bien encore des enfants qui la suivaient à la course en jetant des fleurs au monsieur pour avoir un petit sou. Mais le monsieur restait indifférent. Il regardait sans voir, il bâillait sans pouvoir s'endormir. « Quel voyage insipide !» se disait-il. « Et quel métier que celui de légataire universel, quand il faut rester la bouche ouverte pour attendre la caille rôtie qui n'y tombe jamais ! Comme si 2 ou 3 millions qui m'arriveront, Dieu sait quand, valaient toute la peine que je me donne. Ah, mon cher Paris, mon beau pavillon du bel air, quand j'aurai revu tes bosquets embaumés et les nymphes qui m'y attendent, le diable m'emporte si je te quitte encore. » Puis, cédant à un mouvement d'impatience, le marquis se redressa en appelant son domestique. « La fleur, as-tu ma boîte à parfum ?»« Oui, monsieur, elle est dans votre sac de nuit. » « Ouvre-la et passe-moi vite un flacon de musc. Cette odeur de foin me porte sur les nerfs. Et cette route qui n'en finit pas. Holà, hé, postillon, est-ce que vos chevaux s'endorment ?»« Oh, monsieur veut rire, nous marchons un train d'enfer. C'est pas comme le coche qui est là-bas devant nous. »« Quoi ? Quel coche ? Celui qui vient d'Évreux. » Le marquis s'était penché pour regarder. « Ah, quelle affreuse voiture !» « La voiture, c'est rien, » reprit le postillon. « Mais les bêtes, en v'là des rosses !»« Eh bien, pressez le pas et passons devant. Est-il possible que l'on voyage dans des guimbardes de pareilles ?» En ce moment, une voyageuse avait mis la tête à la portière du coupé, sans doute pour regarder l'équipage dont les grelots et les claquements de fouet faisaient si grand bruit sur la route. « Eh, mais, » dit le marquis, dont la berline n'était plus qu'à quelques pas, « quelle est cette apparition ? Une tête de femme ?» Les voitures allaient se croiser. « Et de très jolies femmes, sur ma foi ! Une figure charmante, des cheveux superbes et des yeux !» La berline avait pris le devant, et notre beau voyageur s'était bien vite penché en arrière pour continuer son examen, mais la tête avait disparu. « Vive Dieu, ma belle, si vous avez un compagnon de route, Gaillard n'est pas à plaindre, et je voudrais bien être à sa place. » En disant cela, le marquis se renversait sur les coussins de soie et il se disait en bâillant à outrance. « Et ton bête de voyager seul, au moins si je pouvais m'endormir. Je reverrai peut-être ma jolie apparition. Essayons. » Quelques minutes après, un mouvement brusque de la voiture lui fit rouvrir les yeux. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous arrêtez-vous, postillon ? Adam, nous v'là au bas d'une côte qui est fièrement rude. » Avec ça que la route est à moitié défoncée. Faut ménager nos bêtes. Elles n'en iront que plus vite après. Soit, mais laissez-moi descendre. J'ai envie de marcher un peu pour me défatiguer. » Et passant derrière la voiture, il appela de nouveau. « La fleur, la fleur !»« Eh, faquin, je crois qu'il dort. Ah, tu daignes te réveiller, c'est heureux. Passe-moi ma canne à ombrelle. » La voilà. Monsieur n'a pas besoin d'autre chose ? Non. » Et en se retournant, le marquis s'aperçut que le coche venait aussi de s'arrêter. Le conducteur, selon l'usage, ouvrait les portières en invitant les voyageurs à descendre. Quelle chance! S'écria le marquis. Je vais la revoir. En effet, la jeune femme reparut, et, s'appuyant sur la portière, elle s'apprêtait à sortir du coupé. Une petite voix de notre connaissance lui disait. Ne reste pas trop longtemps, sœur. Rien qu'une petite promenade, ma Louise. Et fais bien attention, ne va pas te faire mal. Je vais descendre en arrière, c'est plus facile, ce marchepied est si haut. Et comme elle baissait la jambe pour atteindre la première marche, le marquis se précipita pour lui offrir la main. Appuyez-vous sur moi, mademoiselle, et ne craignez rien, je réponds de vous. Henriette, qui croyait avoir affaire à l'un des voyageurs qu'elle avait eu l'occasion de voir déjà au relais ou dans les auberges, accepta volontiers l'aide qu'on lui offrait si à propos. Mais quelle fut sa surprise de se trouver en présence d'un jeune et beau monsieur, le même qu'elle avait aperçu tout à l'heure dans sa riche berline. « Pardon, dit-elle un peu confuse, pardon, monsieur, et merci de la peine que vous avez prise. C'est à moi de vous remercier, mademoiselle, car je suis trop heureux d'avoir pu garder un instant dans la mienne une main si charmante. » Henriette fit un salut de tête fort poli et s'éloigna, laissant derrière elle le coche qui s'était remis en marche qu'à un quart. « Eh bien, voilà tout !» se disait le marquis un peu désappointé. « Comment ? Je n'aurais retrouvé cette jeune fille que pour échanger quatre paroles et en rester là. C'est qu'elle est jolie à croquer. Un petit bas de jambe d'une finesse. Et des yeux à mettre le feu aux poudres. Allons, allons, l'occasion est trop belle. Ne la laissons pas échapper. Je trouverai bien un prétexte pour renouer la conversation. » Et voilà justement mon affaire. Il avait en effet aperçu un mouchoir accroché au marchepied de la diligence. Il se hâta de le prendre et de rejoindre Henriette. « Mademoiselle, mademoiselle, pardon, je crois que vous avez laissé tomber votre mouchoir. »« Mon mouchoir ? » dit-elle en fouillant dans sa poche. « Et je m'empresse de vous le rapporter. »« Encore une fois, merci, monsieur. »« Ces vieilles voitures sont si peu commodes, » continua-t-il. « C'est toute une affaire pour en sortir, et quand on est dedans, on doit s'y trouver bien mal à l'aise. »« Mais non, je vous assure, nous y sommes très bien, ma sœur et moi. » « Ah, à la rigueur, quand on n'est que deux dans un coupé. Mais un troisième serait bien gênant. Nous n'en avons pas, heureusement. »« Bravo !» se dit tout bas le marquis, et reprenant vite l'entretien. « C'est égal, le voyage doit paraître bien long de Dreux à Paris. Je dis Paris, vous n'y allez peut-être pas. »« Si, monsieur, c'est à Paris que nous allons. Vous y avez sans doute des parents, des amis de notre famille. » Une vieille dame et son mari, chez qui nous allons habiter. À la bonne heure, car deux jeunes personnes seules, dans cette ville immense. Mais je m'aperçois que nous marchons en plein soleil. Voulez-vous me permettre de vous offrir mon ombrelle ? Oh, je ne crains pas le soleil, monsieur. Vous devriez au moins profiter de l'ombre de ces vieux arbres. C'est vrai, répondit-elle, je n'y songeais pas. Et elle gagna le bord de la route, espérant mettre fin à cette causerie qui l'embarrassait beaucoup. Mais notre voyageur n'entendait pas s'en tenir là. « Convenez, mademoiselle, dit-il en se rapprochant, que nous traversons un pays magnifique. »« Très beau, répondit sèchement Henriette. Ses coteaux verdoyants, ses bouquets de bois et ses prairies émaillées de fleurs. Aimez-vous les fleurs ? Beaucoup. Ici, on n'aurait qu'à choisir. Mais ce n'est pas toujours dans les champs que l'on rencontre les plus jolies, les plus séduisantes. Et j'en connais une... » Henriette ne lui laissa pas le temps d'achever son madrigal. Toute simple et naïve qu'elle fût encore, elle avait compris, mais elle ne voulait pas en avoir l'air, et sans rien répondre, elle se baissa pour cueillir des primevères et des marguerites sur le bord d'un ruisseau. Immobile, l'œil en feu, le marquis la regardait faire sa cueillette. « Elle est adorable, se disait-il, et je crois, parole d'honneur, que j'en suis amoureux. » Une taille de fée, des pieds, des mains de duchesse, et quelle grâce dans tous ses mouvements, avec ça rusée comme une vraie Normande, car j'ai bien vu, à la rougeur de ses joues, qu'elle devinait où je voulais en arriver. Eh bien, morbleu, j'y arriverai. Mais comment? Par quel moyen? Une fois à Paris, elle va m'échapper. Oh, une inspiration! Henriette venait de se redresser et de se remettre en marche, tenant à la main une grosse botte de fleurs dont elle faisait un bouquet, sans paraître s'apercevoir que le marquis marchait à côté d'elle. Mademoiselle, s'écria-t-il tout à coup, il me vient une idée. On ne rencontre pas des personnes aussi distinguées que vous et mademoiselle votre sœur, sans s'y intéresser un peu. J'oserais même dire beaucoup. Je pensais donc à votre arrivée à Paris, et je me demandais si vous n'alliez pas vous trouver fort embarrassé au milieu de tout ce bruit, de toute cette foule, n'ayant personne pour vous venir en aide. Henriette, froide, silencieuse, avançait toujours, les yeux fixés sur ses fleurs. Mais le marquis, sans se décourager, et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre à la fois respectueuse et tendre, « C'est alors, dit-il, que l'idée m'est venue de vous offrir, non mes propres services, je ne l'oserais pas, mais de vous envoyer quelqu'un, une personne de confiance, mon valet de chambre par exemple, un très honnête garçon qui vous épargnerait tous les ennuis des bagages, d'une voiture à trouver, et qui, au besoin, pourrait vous accompagner jusque chez vos amis. » Henriette comprenait qu'il était impossible de ne pas répondre, et puis c'était un moyen d'en finir. « Je suis très reconnaissante, monsieur, de vos bonnes intentions, mais nous n'aurons, ma sœur et moi, aucun des ennuis que vous redoutez. Le mari de la dame qui nous donne l'hospitalité a offert lui-même de se trouver à l'arrivée de la diligence pour nous recevoir et nous conduire chez lui. » « Fort bien, mademoiselle, du moment que vous serez attendue par une personne respectable, par ce vieil ami, me voilà complètement rassurée. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter un heureux séjour dans notre belle capitale et à moi le plaisir de vous y rencontrer encore. » On était arrivé au sommet de la côte et le conducteur criait de toutes ses forces. « En voiture, messieurs les voyageurs, en voiture !»« Vous m'avez donné la main pour descendre, dit aussitôt le marquis, et j'espère, mademoiselle, que vous ne me la refuserez pas pour remonter. » Mais Henriette retira brusquement la main qu'il avait prise et qu'il allait porter à ses lèvres. Puis, sans ajouter une parole, elle s'élança dans le coupé dont elle se hâta de fermer la portière et de tirer le rideau. « Très bien, se disait le marquis. Dérobez-vous à mes regards, belle sauvage. Je connais maintenant le moyen de vous apprivoiser. Et j'aurai raison de votre pruderie, ou je ne serai plus le marquis de Presles. » Sur ce, il regagna lentement sa voiture en ordonnant à la fleur d'y monter avec lui. « J'ai à te parler, lui dit-il. Et vous, postillon, ne flânez pas, je vous paierai bien. » 5 minutes après, le coche d'Evreux trottinait paisiblement selon son habitude, et la berline, brûlant le pavé, disparaissait bientôt dans un nuage de poussière. Lorsque la fleur avait entendu son maître lui dire de monter dans la berline et de prendre place à côté de lui, Devalet avait eu une seconde d'hésitation. Mais, sur un regard du marquis, il s'était enfoncé dans un coin de la voiture en se faisant le plus petit possible. Monsieur de Presles ne perdit pas de temps à jouir de la singulière mine que faisait son domestique. « La fleur, commença-t-il, si je t'ai appelé auprès de moi, monsieur le marquis est bien bon. « Silence, Marot. Si tu es là, c'est que pour 10 minutes, je t'élève au rôle de confident. » La fleur s'inclina jusqu'au genou de son maître. « Tu m'as vu tout à l'heure, » continua monsieur de Presles. « J'ai eu cet honneur, monsieur le marquis. Tu as également aperçu la personne avec laquelle je m'entretenais. » « J'ai eu cette indiscrétion, monsieur le marquis. » « Alors, au besoin, tu te rappellerais ses traits ?»« Oh, parfaitement, monsieur le marquis. Elle est brune, avec de grands yeux veloutés, le teint pur, la taille bien prise, et des mains. Tu l'as donc bien regardée, drôle. Par dévouement pour monsieur le marquis. Tu te doutes donc ? » La fleur éboucha sournoisement un fin sourire. Alors, tu me retrouverais cette jeune beauté, Faquin ? Entre 10 000, si monsieur le marquis l'ordonnait. Eh bien, la fleur, je te l'ordonne. Le valet fit un bond aussitôt réprimé. « Eh bien, Marot, ricana monsieur de Presles, te voilà pris. Tu vois que tu te vantais. » La fleur réédita son sourire sournois. « Du moment que mon maître ordonne, dit-il, j'obéirai. Seulement, monsieur le marquis me permettra de lui demander au moins le nom de... Mais je l'ignore. » « Pas de nom, soupira le domestique. Mais alors, monsieur le marquis, sait au moins où va cette jeune personne ?»« À Paris. Voilà tous les renseignements que je puis te donner. » Mais ce qu'il faut que tu saches, La Fleur, c'est que j'aime à la folie cette jeune provinciale. C'est que je veux qu'elle soit à monsieur le marquis, d'abord, et tant qu'elle saura me plaire. Après quoi, mes amis se la disputeront s'ils le veulent. Ce sera l'affaire de Maillet, de Destrée, voire même de Rouget de Vaudrey. Au fait, fit monsieur de Presles en s'interrompant, as-tu pensé à faire parvenir mon invitation au comte de Vaudrey? Oui, monsieur le marquis, je l'ai remise moi-même à Picard, le valet de chambre de monsieur le comte Roger. Alors, tout est pour le mieux, car je tiens essentiellement à stupéfier ce cher ami par mon aventure originale et dont on parlera dans les gazettes. Oh, certainement, monsieur le marquis. Donc, Faquin, tu te charges du gibier. Je t'ai mis sur la piste, c'est à toi d'avoir du nez. Et, une fois l'oiseau dans tes pattes, de le rapporter fidèlement à ton maître. Puis, se renversant au fond de la voiture. Maintenant, tu peux aller reprendre ta place de laquais. Ton rôle de confident est terminé. À la grande surprise de son maître, La Fleur ne bougea pas. Ah ça, Marot, s'exclama le marquis. Refuserais-tu par hasard d'obéir? Je suis tout dévoué à monsieur le marquis, seulement... Ah oui, la récompense, n'est-ce pas? Eh bien, si tu réussis, cette bourse ira dans ta poche. Et si tu échoues, je te casserai les reins avec mon jonc de Chine à pomme émaillée. Tu vois que je ferai bien de l'honneur à ton échine. J'en suis d'avance très reconnaissant à monsieur le marquis. Puis, changeant de conversation. Monsieur le marquis a causé longtemps avec son idole nouvelle. Monsieur le marquis a peut-être interrogé cette adorable déesse de province. Non, j'ai seulement quelque peu marivaudé avec la belle. Elle s'est montrée cruelle et je suis piquée au jeu. D'ailleurs, peu m'importe qui elle est. Je la veux parce qu'elle est jeune et belle. Tu désires des renseignements? En voilà. Ah, au fait, reprit le marquis, je puis te dire qu'elle sera attendue à la descente du coche. Par qui? Demanda vivement La Fleur. Par un ami de sa famille. Quelque vieil imbécile, naturellement. Ça me suffit, dit le valet, au moins comme renseignement. Ah, et qu'est-ce qui te manque donc, La Fleur? Ce qu'il faut pour prendre les oiseaux, la glu. Le marquis de Presles sourit, et jetant sa bourse à La Fleur. En voici, drôle, dit-il. Merci, monsieur le marquis. Avec cette glu-ci, j'apporterai sûrement le joli chardonneret dans la cage où monsieur le marquis apprivoise si bien les demoiselles de l'opéra. À mon pavillon du bel air, fit joyeusement monsieur de Presles. Ce soir-là, je veux que De Maillet, Destrée et les autres en meurent de jalousie. La Fleur était radieux. Monsieur le marquis, dit-il, veut-il me permettre de donner de sa part l'ordre au postillon de pousser ses bêtes? C'est urgent. Qu'il les crève alors. Le valet se pencha à la portière et aussitôt la berline roula avec une rapidité vertigineuse. « Pourquoi ce train d'enfer ? » demanda monsieur de Presles. « Parce que le coche de Normandie, que nous avons laissé loin derrière nous, s'arrête à Paris sur le quai des Augustins, presque à la descente du Pont-Neuf, au coin de la rue Dauphine. « Eh bien, c'est là, continua le valet, que descendra la belle inconnue qui a eu l'honneur d'être remarquée par monsieur le marquis. « Alors ? » Et monsieur le marquis voudra bien me permettre d'arriver le plus tôt possible au Pont-Neuf, afin que je puisse prendre, d'avance, toutes mes dispositions en vue de l'enlèvement. Soit. Maintenant, monsieur le marquis peut compter sur moi. Il faut plus de 2 heures pour que le coche d'Evreux arrive à destination. Donc, dans 3 heures, j'aurai l'honneur de rapporter à mon maître le gibier que j'aurai pris. Sur un signe du marquis, La Fleur ouvrit la portière et, avec une agilité de singe, alla reprendre sa place derrière la voiture. Une fois seul, ce valet si bien stylé se prit à monologuer mentalement. « Il s'agit, m'a dit monsieur de Presles, de gagner une seconde bourse remplie comme celle-ci, de belles petites pièces jaunes à l'effigie du bien-aimé, ou bien de sentir mes pauvres os craquer sous le jonc de Chine à pomme émaillée de mon maître, qui déshonore chaque jour un peu plus ses illustres ancêtres. » On voit par cette réflexion que, lorsqu'il se parlait à soi-même, La Fleur se rattrapait largement du respect affecté qu'il témoignait à son maître lorsqu'il se trouvait en présence de celui-ci. Il ne ménageait, toujours mentalement, ni les critiques sévères, ni les expressions malsonnantes à ce marquis débauché qu'il méprisait, mais qu'il servait fidèlement. Il se faisait ce raisonnement bizarre. Monsieur le marquis est une franche canaille, c'est vrai. S'il y a une justice au ciel, ce gredin de prêle aura quelque démêlé sérieux avec le vénérable Saint-Pierre, lorsqu'il se présentera devant les portes du paradis. Mais comme je suis son domestique, qu'il me paie pour le servir, je n'ai pas le droit de lui refuser obéissance. Je m'en lave les mains comme défunt Ponce Pilate. Je me confesse régulièrement au curé de ma paroisse et je dors tranquille. C'est ce criminel de marquis qui portera la peine des péchés qu'il me fait commettre, à raison de 400 écus par an, sans compter les gratifications et les coups de Jean de Chine à paume émaillée. Assurément, pensait la fleur, c'est une infamie que de chercher à introduire cette jolie petite demoiselle qui revient si naïvement de sa province, dans ce pavillon du bel air où l'on marche littéralement sur des filles d'opéra, après boire, avec les amis de monsieur le marquis, de vrais gentilshommes qui se saoulent comme des kaiserlich et s'encanaillent avec des drôlesses. Pouah, ça me soulève le cœur. Mais comme domestique gagé et payé régulièrement, je fais consciencieusement tout ce que m'ordonne ma canaille de maître. En se faisant ces réflexions bizarres, la fleur était absolument sincère. C'était une de ces natures qui manquent tout à fait de sens moral. Mélange de sensibilité naïve et de perversité inconsciente, le tout additionné d'une forte dose de cupidité. Le valet de monsieur de Presles, gredin fieffé, nourrissait un amour pur pour une payse, une cousine dont il faisait très consciencieusement surveiller la conduite, et pour laquelle il économisait l'argent gagné au service du marquis en vue d'un mariage qui devait combler tous ses vœux. Or, du moment qu'il avait promis au marquis de Presles de lui rapporter ce qu'il appelait le gibier, rien ne pouvait le détourner de cette honteuse besogne. Au surplus, c'était dans les cas difficiles que l'intelligence de la fleur se distinguait par sa fécondité de ressources. Donc, tout en accablant, mentalement, son maître d'injures, la fleur récapitulait. La demoiselle sera attendue par un monsieur, bon ami, il souligna le mot, de sa famille. C'est parfait. Il s'agit d'abord de reconnaître cet homme que je n'ai jamais vu. C'est parfait. Puis, après avoir accompagné ce tour de force, je dois faire en sorte que le bon ami de la famille ne se trouve pas à l'arrivée du coche. C'est parfait. Après m'être habilement débarrassé de mon homme, je dois, en son lieu et place, me présenter à la demoiselle. C'est parfait. Enfin, si la toute belle du marquis résiste et évente mon procédé, je dois faire taire mon bon cœur, me fermer à toute pitié, et, au besoin, je dois, bien qu'il m'en coûtera, employer les moyens spéciaux. C'est parfait. En pensant à ce qu'il appelait les moyens spéciaux, la fleur retirait d'une de ses poches de sa livrée un petit flacon de cristal et regardant au travers. « Peste !» murmura-t-il. « C'est à peine s'il y en a pour 3 caprices de cet inassouvissable marquis. Il faudra que je renouvelle ma provision. » En ce moment, le postillon commença à faire claquer son fouet. La berline allait traverser la porte de Paris. 25 minutes plus tard, le jeune marquis de Presles faisait déposer son valet de chambre au coin de la rue Dauphine et la berline filait à fond de train vers le pavillon du Bel Air.